Voilà, je suis très heureux de pouvoir vous adresser une deuxième fois au sujet de Pierre Viret. La dernière fois, nous avons parlé, il y a deux jours, de Pierre Viret réformateur, et nous avons un peu regardé son itinéraire biographique, et puis aussi quelques traits caractéristiques de son ministère. Ce matin, nous voulons regarder un peu de plus près deux aspects de son enseignement. Son enseignement est très vaste, c'est un théologien complet, mais il avait quelques spécificités dans son enseignement particulier. Nous allons toucher ici deux aspects de cet enseignement. Il avait un grand enseignement sur l'Église. On pourrait une fois donner une conférence sur Pierre Viret et son enseignement sur l'Église. Il a beaucoup écrit sur l'Église. Mais ce matin, nous allons, comme le titre de cette conférence annoncée l'indique, nous allons parler de Pierre Viret, éthicien et apologète. D'abord, Pierre Viret, éthicien. Les premières 248 pages du volume 1 de l'Instruction chrétienne de Viret, grand infolio, n'est-ce pas, petit caractère, comprennent divers exposés de la foi, c'est-à-dire des catéchismes progressifs, et une longue série de réflexions sur l'importance des conciles de l'Église, ainsi que sur les dangers qu'ils ont parfois pu représenter pour l'Église elle-même. Il y a ensuite un texte d'apologétique très important que nous examinerons pas, qui s'intitule « Le combat de l'homme contre lui-même », c'est-à-dire la lutte de l'homme pour échapper à l'appel de Dieu. Mais les pages 249 à 674, qui représentent le deuxième volume qui est sur la table encore là-bas, un gros volume de 800 pages édition normale aujourd'hui, ces pages de l'instruction chrétienne constituent un traité complet consacré à l'application détaillée des 10 commandements à chacun des divers aspects de la réalité humaine. C'est le meilleur exposé de la loi de Dieu qui m'a été donné de lire, et le seul ouvrage qui, à ma connaissance, puisse soutenir la comparaison avec le chef-d'œuvre de Rusas Rajduni Institute of Biblical Law. Dans l'instruction chrétienne de Viret, nous trouvons une application détaillée de toute la parole normative de Dieu, tota scriptura, aux problèmes pratiques de la vie chrétienne de tous les jours, ceci pour chaque aspect de la vie personnelle et sociale. Une telle exposition est accompagnée d'une façon remarquable par un sens de l'équilibre théologique et par une compréhension de la réalité délicate entre la dogmatique et l'éthique, tout en maintenant constamment à l'esprit le but de favoriser la proclamation de l'Évangile, de faire avancer le royaume de Dieu et de ramener tout honneur et toute gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans sa préface, Viret expose d'emblée son objectif central avec la plus grande clarté. Pour cette raison que j'ai proposé de déclarer, c'est-à-dire d'expliquer la loi de Dieu, qui doit être tenue pour la règle de toutes les autres, par lesquelles les hommes doivent être conduits et gouvernés, je ferai, avant qu'entrer en exposition de celle-ci, quelques discours des grandes difficultés qui se sont trouvées de tout temps à bien gouverner les hommes, à les contenir dedans les limites de raison, de droiture et de justice, et des causes semblablement de ces difficultés. Et un peu plus loin, il précise. Or, combien que ceux-ci, c'est-à-dire les législateurs païens de l'Antiquité, n'aient pas failli, ne se sont pas trompés en ce qu'ils ont jugé que toute la science, la prudence et la sagesse qui étaient aux hommes devaient être rapportées à Dieu, comme don, dit celui, et qu'il était requis pour rendre les hommes obéissants aux lois, que Dieu en fût estimé l'auteur et le législateur. Les philosophes de l'Antiquité, les législateurs de l'Antiquité, considéraient que toutes les lois venaient de Dieu. Il entreprend ensuite de définir plus précisément cet objectif, montrant à quel point il était nécessaire que Dieu révèle aux hommes le contenu de cette loi comme la création elle-même d'origine céleste. Pour Viret, c'est très clair, la création est d'origine céleste et aussi la loi de Dieu. Bien sûr, l'homme lui-même. Il entreprend ensuite de définir plus précisément cet objectif, montrant à quel point il était nécessaire que Dieu révèle aux hommes le contenu de cette loi, comme la création elle-même d'origine céleste. Pour cette cause, il a voulu donner loi lui-même, qui servit de règle à tous les hommes de la terre pour régler l'esprit, l'entendement, la volonté et les affections, tant de ceux qui doivent gouverner les autres que de ceux qui doivent être gouvernés par eux. et a fait ceci afin que tous ensemble se reconnussent un seul Dieu pour leur souverain prince et seigneur, et que se reconnussent ses serviteurs et ministres, lesquels il faudra une fois tous venir à compte devant le trône de la majesté de Dieu. Puis vient cette affirmation centrale à toute l'éthique chrétienne de Viret. Il a renfermé en cette loi toute la doctrine morale nécessaire aux hommes pour bien vivre, ce qu'il a fait trop mieux, c'est-à-dire bien mieux, sans comparaison, que tous les philosophes, en tous leurs livres, tant des éthiques, des politiques et économiques, là la référence est à Aristote, et que tous les législateurs qui ont jamais été, et qui sont et seront, et toutes leurs lois et ordonnances, en sorte que tous ensemble n'ont jamais rien mis de bon en avant, qui ne fût inclus en elles, et qui ne soit mauvais, qu'il n'y ait pas compris. Il ajoute, « Donc, soit que nous veuillons bien être instruits, pour nous savoir conduire et gouverner nous-mêmes, en nos propres personnes et en notre particulier, selon droit, raison et justice, ou au gouvernement de nos maisons et nos familles, ou au gouvernement du bien public, cette loi nous pourra servir de vraie éthique, économique et politique chrétienne. Éthique, c'est l'éthique personnelle, économique, c'est la vie du ménage. Et les politiques, c'est en fait les règles de la cité. Si elle est bien entendue, si elle est bien comprise, et ceci trop mieux que celle d'Aristote, Platon, Xénophon, Cicéron et des autres semblables qui ont grandement travaillé à former les mœurs des hommes, tant pour le gouvernement particulier d'un chacun que pour le domestique et public. Et Viret conclut sa préface ainsi. Car il ne faut point espérer que jamais roi, prince ni peuple puisse avoir prospérité qui dure, sinon en tant que Dieu règnera en tous et sur tous, et qu'ils seront gouvernés par lui, comme il paraît clairement par les promesses et menaces qu'il a ajoutées à sa loi. Car comme lui seul peut nous donner loi parfaite, selon laquelle il nous convient gouverner, conduire, il peut semblablement donner les princes, les magistrats et les pasteurs en ministres aptes pour la mettre en exécution. Non seulement il donne les règles, la loi, mais lui, dans sa providence, va donner les hommes capables de les appliquer. Et les peut former comme instruments propres à son service et donner force à leurs offices et ministères pour ranger, pour soumettre à son obéissance ceux qu'ils auront en charge. Car comme il donne sa loi pour nous donner à connaître ce qui nous manque, et de quoi nous avons besoin, il donne aussi par Jésus-Christ, son Fils, le Saint-Esprit, qui renouvelle les cœurs et donne les dons et grâces nécessaires pour l'accomplir. Une telle vision de l'autorité souveraine et de la sagesse suprême de la loi de Dieu a poussé Pierre Viret à examiner les devoirs particuliers des hommes à l'intérieur des limites de leur vocation spécifique. C'est à cette tâche déontologique, c'est-à-dire de l'éthique professionnelle, qu'il s'est attaché dans son traité magistral intitulé « Métamorphose chrétienne faite par dialogue ». Métamorphose chrétienne, ça veut dire conversion, n'est-ce pas ? Métamorphose, régénération. Voici les titres des chapitres de la section intitulée « L'homme ». D'abord, l'homme naturel. Ensuite, l'homme difformé, c'est-à-dire déformé. Ensuite, troisièmement, la transformation des âmes. Quatrièmement, le vrai homme, ou l'homme transformé, c'est le chrétien, évidemment. La seconde partie a pour sujet l'école des bêtes. Il se plaît à comparer les hommes dans leur comportement à des animaux. Et très souvent, il trouve les animaux bien supérieurs aux hommes. C'est d'ailleurs assez drôle comme il raconte ces choses. Parce qu'il voulait faire entendre ses vérités à des gens qui ne liraient pas des traités très sérieux. La seconde partie a pour sujet l'école des bêtes et se compose ainsi. Les économiques ou le bon ménage, les politiques ou la république, l'art militaire, les arts, les éthiques ou les morales, la religion, les langages, la prophétie ou la théologie. C'était le programme de cette partie de ce livre. Imaginez l'intérêt qu'a pu susciter un tel ouvrage à l'époque. Et à notre époque aussi, je l'espère. Enfin, parmi ses nombreux écrits apologétiques, dont bon nombre sont consacrés à la polémique dirigée contre les erreurs de l'Église romaine, nous nous devons de commenter son examen satirique de la politique de l'époque vue sous l'éclairage de la loi de Dieu et le développement de ce que nous devons appeler la théologie de l'histoire. Un ouvrage double intitulé « Le monde à l'Empire », qui est la première partie, et la deuxième partie « Le monde démoniaque ». Le monde démoniaque. Le terme démoniaque parle pour lui-même. Une paraphrase possible de ce titre, avec son jeu de mots sur « empire », du substantif « le royaume », le mot « empire » qui est à la fois du substantif « royaume » et « empire » du verbe « empirer », n'est-ce pas ? Les deux choses en même temps. Une paraphrase serait celle-ci. « La corruption des empires du monde est le monde démonisé ». N'est-ce pas une assez bonne description de notre Occident ? La corruption des empires du monde ou le monde démonisé. Cet ouvrage est un puissant témoignage à l'extraordinaire vision prophétique accordée à ceux qui, comme Viret, se préoccupent de voir et de comprendre chaque aspect de la réalité à la lumière de la parole loi de Dieu. Ces trois ouvrages comportent une vaste synthèse théologique sur l'histoire de la société et de l'Église. La métamorphose chrétienne représente le passage du paganisme au christianisme. Le monde à l'Empire, celui du déclin du christianisme et sa corruption mondaine en l'impérialisme pontifical de l'Église de Rome. Le monde démoniaque décrit la vision d'une lucidité rare qu'avait Viret de l'avenir des Églises issues de la Réforme, leur transformation en habitacle de démons. Viret voyait venir la modernité, c'est-à-dire un monde d'où Dieu était exclu. Sur la pensée politique de Viret, le rôle que la loi de Dieu y joue, l'étude pionnière est celle de Robert D. Linder. Et il nous présente une analyse d'une grande valeur à ce sujet. Il décrit d'abord ce que représentait pour Viret la loi divine, la parole de Dieu constituée en règle normative, tant dans le domaine individuel que pour la vie politique et ecclésiastique, ainsi bien sûr que pour celle de la théologie. Linder définit la pensée de Viret en ces termes. Les Écritures contenaient aussi des déclarations concernant l'État. Et dans la mesure où elle se rapportait au gouvernement séculier, elle représentait la volonté de Dieu pour cette institution. Donc l'État séculier était vu par Viret comme étant une création de facto, venant directement de Dieu. Lui-même, mais gouverné en harmonie avec les règles et les préceptes contenus dans les Saintes Écritures. Et Linder ajoute, les plans de Dieu pour les hommes comprenaient une existence paisible et rangée, et l'État était le moyen par lequel ce genre de vie pouvait être assuré. Les dirigeants de l'État séculier devaient légiférer en harmonie avec la Bible et remplir le rôle qui leur était assigné tel qu'il était représenté dans les Écritures. Viret devait amener les autorités civiles à reconnaître que toute justice et toute loi émanaient de la souveraine volonté de Dieu, et que les magistrats étaient les distributeurs de la justice provenant de la loi de Dieu. Si elles n'obéissaient pas à cette vocation, ces autorités séculières étaient considérées comme de méchants tyrans et étaient passibles du jugement du Dieu Tout-Puissant. Car aux yeux de Viret, écrit Linder, l'État séculier était une création immédiate de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lui-même lui avait directement délégué une certaine autorité. Tout pouvoir vient de Dieu. Cependant, selon Viret, les Saintes Écritures non seulement décrivaient et confirmaient l'autorité temporelle, mais elles en définissaient la nature et en limitaient également les droits. Le pouvoir venant de Dieu n'est pas sans limite, il est limité par Dieu aussi. C'était son sentiment que toute loi affectant la morale publique et touchant aux valeurs spirituelles devait tirer sa source directement de la loi morale de Dieu. Cependant, il pensait également que ces lois absolues et éternelles, divines, devaient être adaptées à l'époque où vivaient les gens et au tempérament national du pays où les lois devaient être appliquées. Alors Viret voyait la loi de Dieu comme étant une norme, pas seulement pour les individus, pas seulement pour les familles et l'Église, mais aussi une norme pour les cités. Mais cette norme, dont les normes étaient immuables, devait dans une certaine mesure s'adapter aux circonstances des temps et des lieux, sans perdre leur valeur normative. Linder continue. Viret a montré que les lois civiles peuvent être autant bonnes que mauvaises. Il croyait que les hommes détenaient une certaine liberté dans le choix des codes légaux qui devaient régir leur vie. Cependant, il pensait que dans un État véritablement chrétien, les bonnes lois reposeraient toujours sur les 10 commandements de Dieu tels qu'on les trouve dans l'Écriture sainte. Selon lui, à moins que les lois humaines ne soient constituées sur le fondement de la loi morale de Dieu, les hommes ne pouvaient s'attendre à ce qu'elles soient justes et équitables. Ainsi, toutes bonnes lois viennent de Dieu lui-même, car elles sont tirées de la parole de Dieu qui est son testament écrit pour l'humanité. Viret mettait surtout l'accent sur le gouvernement soumis à la loi civile, et particulièrement à la loi civile tirée de la manière la plus précise possible selon le contexte politique de la loi morale de Dieu. Et Linder ajoute, la notion de Viret selon laquelle le prince était soumis à la loi est extrêmement intéressante et très différente de la théorie absolutiste qui plaçait le roi au-dessus de la loi. Comme aujourd'hui, l'État est au-dessus de la loi de Dieu. C'est lui qui détermine la loi lui-même. Il est Dieu. Théorie, dit Linder, dont Jean Bodin, un grand juriste français du XVIe siècle, et toute la pensée politique ultérieure, se fit l'avocat, c'est-à-dire du pouvoir monarchique absolu. Ce que décrétait un roi était loi. Ce que décrètent nos parlements est loi. Que ce soit conforme à la loi de Dieu ou non, peu d'importance, puisqu'elle est conforme au Dieu du moment, qui est l'État moderne. Le concept du dirigeant séculier toujours nécessairement soumis à la loi était l'un des thèmes récurrents de la pensée politique médiévale, écrit Linder, de l'Europe occidentale et n'était aucunement une idée nouvelle. Là, Viret était tout à fait traditionnel. Alors Viret exprime sa pensée politique ainsi. Car les princes et les magistrats doivent être sujets aux lois et modérer leur gouvernement selon celles-ci. Car ils sont non pas maîtres des lois, mais serviteurs, dit-elle, ministres, dit-elle, comme ils sont ministres de Dieu, duquel toute bonne loi procède. Et pour cette raison, les magistrats sont à bon droit tenus pour lois vives et parlantes, quand ils sont tels qu'ils doivent être, comme aussi les lois sont comme magistrats muets, lesquels parlent par les vrais magistrats. Et Viret, dit Linder, insiste sur le fait que le vrai chrétien doit en toutes circonstances soumettre le code justinien et toute la loi romaine à l'autorité de la parole de Dieu. Et Linder fait ce dernier commentaire que je vous lirai. Les schémas de la pensée de Viret l'ont amené à préconiser ce qu'on appellerait aujourd'hui la législation de la morale. Par exemple, il était pour l'adoption de statuts civils contre l'adultère, le blasphème et l'idolâtrie. Et il était partisan de la réglementation de certaines activités économiques le dimanche. De plus, il établissait un lien entre la vraie chrétienté et le maintien et l'application des lois telles que celles contrôlant la corruption et l'achat de charges publiques, des lois contre l'usure, contre l'exploitation des pauvres par les riches et des lois fixant les limites au prix et à l'achat des terrains. Ce qui serait utile pour nos églises, n'est-ce pas ? L'on voit bien de tout cela que la profonde amitié de Viret pour Jean Calvin, son aîné de 2 ans seulement, ne l'empêchait absolument pas d'exprimer à l'occasion des vues théologiques divergentes, tout en continuant bien sûr de partager avec lui les mêmes convictions réformées quant aux points de doctrine fondamentaux. La réforme nous montre de manière frappante que l'unité doctrinale de base n'exclut pas une certaine diversité théologique. C'est le conformisme mécanique d'une époque largement efféminée, la nôtre, qui ne parvient pas à supporter les désaccords dans l'Église sur des questions secondaires. Ainsi, la position de Viret sur la question de l'application dans les détails de la loi mosaïque, tant la loi morale, les 10 commandements, que la loi judiciaire, l'application casuiste du décalogue par la Torah, à la situation actuelle de la société était dans une certaine mesure différente de celle de Calvin. Et voici comment Linder définit cette différence. Viret, contrairement à Calvin, était prêt à étendre ouvertement l'autorité de la Bible sur l'État. Sur ce point, la position de Viret, sans être explicitement théonomique, le terme n'existait pas à l'époque, était parfois plus profondément et systématiquement biblique que celle de son ami Calvin. En particulier, il avait une sens plus ferme de l'ordre de nature, c'est-à-dire de l'ordre créationnel. Que son ami et collègue genevois, disons-le en passant, Le terme théonomique veut simplement dire l'autorité de la loi, nomos, de Dieu, théos. Aucun chrétien ne saurait s'opposer à l'autorité de la loi de Dieu. La manière dont cette expression était comprise peut varier grandement. Pour notre part, nous prenons au sérieux toute l'écriture sainte, tota scriptura, et lisons le décalogue à la lumière non seulement de l'ordre créationnel immuable et de l'enseignement casuistique de la Torah, c'est-à-dire des explications de la loi dans les cinq livres de Moïse, mais aussi à travers les enseignements de la sagesse et des prophètes, et surtout à travers l'enseignement de Jésus-Christ et des écrits apostoliques. Calvin, dans son application de la loi de Dieu au corps politique, s'est montré parfois assez ambigu. Il a d'une part souvent hésité, en particulier dans son institution, entre l'affirmation de l'existence d'un ordre créationnel, d'une loi naturelle, d'une loi des nations, inspirée toutefois, il faut le dire, en partie par des principes bibliques. Par exemple, il était favorable au code justinien comme norme. Mais le code justinien n'est pas toujours conforme à la parole de Dieu, ça c'est évident. Mais il cherchait à s'appuyer sur des sources, le droit romain, le code justinien, etc., indépendantes de la Bible. Il faut ajouter que Calvin, dans ses commentaires et ses sermons, a défendu la notion d'une relation plus étroite et précise entre les lois morales, judiciaires et politiques de la Torah et leur application normative aux lois pénales et civiles des nations. Mais il nous faut relativiser ce débat, car l'accord entre Calvin et Viret sur la plupart de ces questions était bien plus profond que ne l'étaient leurs différences, certes significatives, mais somme toute assez modestes. Alors ici, nous allons regarder juste un texte biblique, et voir comment Calvin le commente et comment Viret le commente. C'est très instructif de voir un peu cette distinction. On voit une communauté de pensée énorme et puis une certaine divergence dans le détail de l'application. Et ici, il s'agit du texte de Deutéronome 25, 13 à 16. Je vais vous le lire. « Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. » Tu n'auras pas dans ta maison deux sortes d'épha, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque agit ainsi, quiconque commet une fraude est en horreur à l'Éternel ton Dieu. Voyons d'abord les commentaires de Calvin sur ce passage dans son ouvrage « Sermon sur le Deutéronome ». Calvin écrit « Il y a deux choses parmi lesquelles nous offensons nos prochains surtout. Car les uns a donné à fraude et à malice pour tromper et circonvenir, et les autres y procèdent par outrage et injure. Il y en a qui le font subtilement, il y en a qui le font violemment. Or, pour ce qui est de malice cachée, la pire qu'on puisse choisir, c'est quand les poids sont falsifiés et les mesures. » Ça, c'est dit que c'est la pire manière de tromper son prochain. Car la monnaie est un moyen pour faire trafiquer, c'est-à-dire commercer les hommes entre eux, sans débat et sans discussion, sans tort. Si nous n'avions argent pour pouvoir acheter, s'il nous manquait de l'argent pour acheter, quelle confusion il y aurait. Or, les marchandises se distribuent aussi par poids et par mesure, souvent. Ainsi donc, quand il y aura fausseté ou en l'argent, ou au poids, ou en la mesure, voilà le lien de communication rompu entre les hommes, qu'il faudra qu'ils soient comme chien et chat, et qu'il n'y ait plus moyen de les approcher. Et ainsi, il ne se faut pas ébahir, s'étonner, si notre Seigneur met une grande détestation que les poids et les mesures soient falsifiés, s'il montre que cela est le pire larcin et le plus détestable qu'on puisse faire. Quand un larron, un voleur, propose en son cœur de faire quelque butin, il s'adresse à un homme, il s'attaque à un homme. Il est vrai que de l'un, il ira à l'autre. Mais encore, nous savons qu'un larron, un voleur, ne se peut pas tellement étendre dans son action qu'il pille tout le monde ensemble à la fois. Or, celui qui a faux poids et fausse mesure, il n'a point égard à qui il veut dérober, mais il fait tort à tous en général, et c'est pour pervertir l'ordre commun tellement qu'il n'y aura plus quasi d'humanité. Que seront les lois? Que fera la justice quand il n'y aura plus de droiture et de loyauté en ce qui doit aider les hommes à se maintenir en leur état, c'est-à-dire la circulation d'une bonne monnaie? Nous avons donc ici une loi bien nécessaire quand il est parlé des poids et des mesures. Calvin entreprend ensuite d'appliquer cette loi à ce qu'il appelle la doctrine générale. Il entend par là l'application du principe d'intégrité qui se trouve derrière cette loi spécifique à divers aspects de la vie chrétienne. Il parle de la loyauté dans les transactions commerciales, de prix justes et équitables, de compassion pour les pauvres, de l'hypocrisie qu'il y a à prétendre être un chrétien tout en négligeant ses devoirs pratiques envers son prochain, de la corruption innée chez l'homme et de la nécessité d'être loyal et intègre dans les relations humaines. Je cite plusieurs textes de Calvin encore, que vous pouvez lire dans mon petit livre, sur Viret, mais j'y passe pour passer directement à l'analyse de Pierre Viret. Pierre Viret a une approche, par certains côtés, assez différente. Il ne consacre pas moins de 55 grandes pages folio, en petits caractères de l'édition originale que nous avons utilisée, pour élaborer un exposé détaillé du 8e commandement. Sur le passage que nous étudions, son commentaire occupe 6 grandes pages, les pages 581 à 586. Au lieu de tirer des leçons de morale générale à partir de la loi spécifique, comme Calvin tend à le faire, Viret se donne une peine immense à étudier en détail le texte de la loi biblique et ses applications dans la Torah, l'appliquant à toutes sortes de transactions commerciales. Ce que Viret développe ici est une véritable casuistique, c'est-à-dire une étude de cas, légale, dans le sens tout à fait positif de ce mot. Une véritable déontologie professionnelle, se rapportant aux applications spécifiques des diverses lois bibliques. Il le fait de telle manière, bien que ses remarques soient soigneusement adaptées aux conditions de son époque et à la culture de son temps, qu'elles n'en demeurent pas moins presque directement applicables aux réalités du monde contemporain. Ce livre de Viret est une d'actualité incroyable sur tous les domaines. Ces commentaires ne constituent d'aucune façon une distorsion anachronique de la signification du statut particulier de la loi mosaïque en question. Examinons tout d'abord la façon dont il subdivise son texte et les titres qu'il donne à ses divisions. D'abord, des larcins, larcins ça veut dire vol, des larcins commis en la quantité et au poids et mesure des choses vendues et délivrées, et combien cette manière de vol, de larcin, est jugée détestable par les saintes écritures. Deuxièmement, de l'invention et de l'usage de la monnaie et des faux monnayeurs, et de la grandeur de ce crime et du larcin commis par tel moyen. Troisièmement, des larrons et faussaires de la parole de Dieu, et des larcins qu'ils font des hommes, les vols qu'ils font aux hommes, et de leurs biens par ce moyen, en tordant la parole de Dieu. Quatrièmement, de ceux qui rognent les monnaies. Vous savez que les monnaies, on pouvait les rogner, on coupait des bouts. La monnaie avait moins de poids, mais elle avait la même valeur visible. De ceux qui rognent les monnaies et qui usent de celles-ci qu'ils savent n'être pas de mise de valeur légitime, et principalement ceux qui ont charge des deniers publics, le gouvernement. Des corruptions par les dons et des marchands qui vendent et achètent justice et les pauvres. Des vols commis en vente de victuailles et des dangers qui sont en corruption de la nourriture. Du regard de l'attention que le magistrat doit avoir sur les vivres et du grand mépris des serments faits à ce sujet. De la faute qui est chez les magistrats et officiers en cet endroit par lequel ils se rendent coupables de vols et méchancetés qui se commettent en ces choses, dans la vente des vivres. Du danger qui est chez les médecins et pharmaciens en telle matière et de la loi que Dieu a donnée des poids et mesures et des menaces, dit celui de celui-ci, contre ceux qui les falsifient. Au sujet de la falsification des poids et des mesures, Viret écrit dans sa manière dialoguée habituelle, je vais vous citer le dialogue. Il y a Timothée d'un côté et Daniel de l'autre. Timothée, parlons maintenant de la quantité. Daniel, le vol se fait par elle quand les mesures et les poids sont faux. Car combien, bien que la substance et la matière y est telle qu'elle doit, de telle qualité qui est requise, toutefois elle est diminuée. Par quoi, à cause de quoi, il n'a pas tant qu'il doit y en avoir. Dont il s'ensuit que ce qui s'en faut s'y manque est dérobé à celui qui reçoit la chose. Cette espèce de larcin est fort condamnée par plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Timothée, elle est aussi fort fréquente et commune pour ce fait qu'il est plus aisé de voler les hommes par ce moyen, c'est-à-dire en diminuant la monnaie, qu'au changement de la substance et des matières, ou en la corruption de ces substances et ces matières. En tant qu'il est plus facile de s'apercevoir de la faute qui peut être en tel changement, la qualité d'un tissu ou bien d'une nourriture, Et cette corruption que celle qui est au poids et aux mesures. Car quand nous achetons et nous vendons, il nous faut nous fier pour la plupart du temps au poids et mesures des marchands auxquels nous avons affaire, car nous ne pouvons pas toujours porter des balances avec nous. Daniel, d'autant est l'iniquité plus grande de ceux qui les falsifient en tant qu'ils trompent plus méchamment ceux qui se fient à eux. En quoi ils sont comme les voleurs et les brigands publics, ceux qui falsifient la monnaie en la reniant, enlevant la qualité. Et si cette fausseté déplaît grandement à Dieu, il y a bien encore pire quand on diminue les poids et les mesures et qu'on augmente le prix comme le Seigneur s'en plaint par son prophète Amos. Certainement, si nous avions suivi les prédications sur Amos, notre frère, nous aurions pu avoir quelques exposés à ce sujet. Viret applique de manière très appropriée ce statut de falsificateur des poids et des mesures aux faux monnayeurs, car dans les temps anciens, l'inégalité du poids des pièces de monnaie en rendait la pesée nécessaire si l'on voulait pouvoir en déterminer la valeur exacte. Parce que les pièces étaient faites d'une manière différente, elles n'étaient pas la même grandeur. Alors pour savoir la valeur d'une certaine quantité de pièces, il fallait les peser, vous voyez. Écoutons ce dialogue suivant d'une actualité encore incomparable entre Timothée et Daniel. Timothée, quelle sorte de gens te semble manquer, commettre une faute le plus en ces choses et être les plus nuisibles par ici? Daniel, le nombre en est si grand que je suis fort en peine pour te répondre. Ce néanmoins, je te donnerai quelques exemples. Premièrement, les faux monnayeurs sont fort dangereux et dommageables, car la monnaie et la manière de monnayer l'or, l'argent et les autres métaux a été trouvée des hommes pour commercer plus facilement ensemble et pour avoir moyen plus aisé de communiquer, c'est-à-dire d'échanger les uns avec les autres, les biens que Dieu leur a donnés. Car le train des marchandises, c'est-à-dire les échanges d'affaires, n'est autre chose sinon un échange fait entre les hommes par lesquels les uns communiquent aux autres ce qu'ils ont d'une part, prenant une chose pour récompense d'une autre, selon la valeur à laquelle des choses sont échangées. Alors si on change, si on triche sur les monnaies, alors on triche sur tout le commerce. Et tout le monde est volé. Il continue. Raison pour laquelle, puisque Dieu a donné aux hommes ce moyen, la monnaie, pour se soulager plus aisément les uns les autres, ceux qui la pervertissent et confondent cet ordre font une grande plaie au bien public et à toute la société humaine. Donc, c'est pourquoi ils sont dignes de graves punitions, et ce d'autant plus qu'ils mettent plus grande confusion entre les hommes, car ils ne peuvent vivre sans commercer les uns avec les autres. Par conséquent, celui qui ôte ce moyen est comme un brigand public pour couper la gorge à toute la communauté des hommes, car il ôte par ce moyen qu'il tient la bonne foi et la loyauté sans laquelle la société humaine ne peut être entretenue ni conservée. Car la foi et la loyauté étant ôtées, il n'y a plus rien de certain et par ainsi les hommes sont en un grand trouble et un désordre non pareil. Alors, voilà pour virer. Mais on peut dire ceci. De nos jours, la fabrication de la fausse monnaie est devenue la spécialité des banques centrales. Ça, c'est vrai. Qui pillent sans vergogne la communauté par leur création d'argent comme sortie d'un chapeau d'un magicien, car une telle création ex nihilo de moyens d'échange, émission et de crédit qui ne repose sur rien mènera inévitablement à l'inflation, c'est-à-dire à la perte de la valeur de la monnaie. Et en fait, on volera tout le monde par ce moyen. Si mes 100 euros ne valent plus que 90, ben je suis volé 10 euros. Et l'État l'a fait sans au moins aucun pouvoir législatif. Cette monnaie virtuelle, ces papiers, ces chèques ou cet argent électronique ne sont, dans les temps modernes, depuis au moins 1944 ou 1973, où le dollar monnaie d'échange mondial a cessé tout rapport avec l'or, plus du tout cautionnés par des réserves monétaires en dur et sont donc en fin de compte totalement incapables d'être achetés. Le résultat d'une telle création monétaire parfaitement arbitraire est bien sûr l'expansion incontrôlée de toutes sortes de dettes publiques et privées, la destruction de la productivité de la société par la concentration d'un tel capital dans les transactions de spéculation. Ceci aux dépens des investissements industriels et commerciaux producteurs de véritables richesses. On développe ainsi le cycle moderne de la prospérité faillite, d'inflation et de restrictions monétaires ainsi que l'expansion à grande échelle d'une spéculation totalement improductive comme autant de moyens de gouvernement tyrannique, occulte et irresponsable. Pierre Viret aurait eu beaucoup à redire du point de vue biblique sur la situation monétaire qui est la nôtre actuellement. Et nous pouvons tirer beaucoup de conclusions à partir de ses analyses de son temps. Il était tout à fait conscient de l'existence de problèmes similaires à son époque. C'est d'une plume acérée qu'il décrit ce crime de l'État de la falsification de la monnaie. Passons maintenant à la question brièvement de l'apologétique. On pourrait en dire beaucoup plus, mais il faut passer, le temps coule. Pierre Viret, apologète. Viret est l'éthicien et l'apologète majeur de la réforme calviniste. Par son attachement à l'autorité et à la pertinence de tous les aspects de la révélation écrite de Dieu, et par son immense talent à mettre en rapport les enseignements de la Bible avec les réalités de la création, de l'histoire et de la vie de tous les jours. Sa position n'est pas seulement fondamentalement, on dirait aujourd'hui, présuppositionnaliste, dans le sens où la parole écrite de Dieu est pour lui le présupposé fondamental de toute pensée fructueuse, mais elle aussi, et c'est cela qui est intéressant, pleinement évidentialiste. Car il a une compréhension admirable du fait que la signification de tous les aspects de la réalité lui est donnée par Dieu. Il n'existe pas de fait brut pour Viret, et trouve son point de référence fondamental dans l'enseignement normatif des Écritures. Ceci l'amène à utiliser chaque aspect de la réalité matérielle et culturelle comme tremplin potentiel, car son sens est en Dieu, pour attirer l'attention de ses contemporains sur les grandes vérités de la révélation de Dieu. Pour Viret, la zoologie, par exemple, ne se limite pas, comme aujourd'hui dans notre monde dominé par la perspective mathématique, aux études anatomiques quantitativement mesurables et expérimentales. Bien plus, les créatures de Dieu nous donnent, selon Viret, des leçons de comportement. Les exemples en abondent dans l'écriture et dans les fables et la poésie populaire. À caractère social, moral et spirituel, car la façon de raisonner de Viret est profondément biblique et créationnelle. Il n'a été ni intellectuellement ni moralement émasculé par ce que l'on peut appeler la chirurgie épistémologique des temps modernes, tradition philosophique intellectuellement et spirituellement stérilisante. Car tout ce qui n'entre pas dans le cadre du modèle mathématique moderne est alors rigoureusement exclu de la pensée reçue par le grand nombre, par le consensus culturellement totalitaire. C'est ainsi que la plupart des activités intellectuelles humaines normales, la théologie, la métaphysique, l'éthique, l'esthétique, les perceptions sensorielles ordinaires, l'histoire, la littérature, la pensée politique, respectant les hiérarchies sociales naturelles, les émotions, les sentiments, on en a bien parlé, sont privées de toute véritable signification. Dans un tel univers intellectuel, le sens n'est plus déterminé ni par Dieu, ni par sa parole écrite, ni par les multiples formes substantielles permanentes, l'ordre nature que cette parole créatrice et organisatrice divine a dès le commencement suscité et maintenu dans le domaine de la nature. Toute pensée culturellement correcte sera désormais déterminée par un modèle épistémologique appauvri, réduit à la misère de ses prétentions purement scientifiques. Alors, l'analyse que Pierre Viret fait des leçons morales à tirer de l'observation des animaux, des plantes aussi, des oiseaux, et de leur comparaison avec le comportement humain est fermement ancrée dans les analogies que l'Écriture nous présente entre les réalités manifestées par l'ordre de la création et leur signification pour l'existence morale et spirituelle des hommes. Pour ne prendre qu'un exemple, considérons la manière dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même utilise les phénomènes les plus simples de la nature pour en tirer des leçons des plus sublimes vérités morales et spirituelles. Cela se voit autant dans les paraboles contenues dans les évangiles synoptiques que dans les images si éloquentes de l'évangile de Jean. Mais cette constatation vaut également pour la totalité de l'Écriture. Elle témoigne ainsi de la signification morale et spirituelle en Dieu d'abord de tout ce qui existe, de tout ce qui se passe dans l'univers tout entier. Car le sens premier de toute chose se trouve d'abord dans le Créateur lui-même, être suprêmement moral et spirituel. avant de se manifester dans ses créatures. Pour atteindre son but, Pierre Viret ne se limite pas, comme le font souvent les tenants d'une apologétique présuppositionnelle, à raisonner déductivement à partir des textes bibliques uniquement. Ce n'est pas qu'il croit qu'il existe un terrain philosophique imaginaire commun à la pensée chrétienne et à la pensée païenne. Loin de là. Et il ne tombe pas dans, en fait, ce naturalisme qu'on trouve dans la tradition de C.S. Lewis ou de Alistair McGrath. Ceci l'a conduit, comme cela avait été mené à McGrath, comme cela a été pour le cas pour son mentor C.S. Lewis, à trop mettre l'accent sur des arguments purement logiques dans l'apologétique chrétienne et à sous-estimer fâcheusement les questions de la mise en pratique détaillée de l'Écriture, du rôle déterminant du Saint-Esprit, de la grâce souveraine et irrésistible de Dieu, de la nécessité de la prière, de la nécessaire démolition préalable des présupposés idoles de l'interlocuteur, ainsi que d'une relation étroite de foi et d'obéissance avec Dieu pour un travail apologétique évangélique efficace. Alors, pour Viret, notre faculté de raisonnement, ce grand cadeau de Dieu, exprimé dans la parole dite et dans la parole écrite des hommes, se trouve à présent dans un triste état de confusion. Pour lui, il croit que la pensée humaine a été affectée par la chute. Car dès après la chute, les systèmes de pensée, maintenant autonomes des hommes, fondés comme ils le sont sur de fausses présuppositions, ont fonctionné indépendamment de la révélation écrite de Dieu et de l'équilibre établi par lui d'un ordre stable créé. Ils ne peuvent donc plus être utilisés comme instruments de communication vraiment fiables entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son prochain, entre l'homme et la création. Il s'ensuit que, contrairement aux prétentions de la tradition apologétique explicitement rationnelle des Lewis et des McGrath, une raison défaillante ne peut en aucun cas constituer un terrain commun solide pour un dialogue égal, fructueux, entre chrétiens et non-chrétiens. Cependant, pour Cornelius van Til et pour Jean Calvin, et plus encore pour Pierre Viret, il existe bel et bien un terrain qui soit commun entre le chrétien et le non-chrétien. Mais ce terrain commun ne se fonde pas sur l'emploi désordonné de nos facultés rationnelles, mais bien plutôt sur la stabilité des structures de la réalité créée, tant humaine que cosmique, et sur l'ordre révélé que révèle l'histoire humaine dirigée par l'alliance providentielle de Dieu. Viret se base alors sur le fondement de la parole de Dieu, il se base aussi sur le fondement de l'ordre stable de la création, et il va mettre ces deux choses en rapport l'un avec l'autre. Je vais donner un exemple. En parlant des hommes qui réagissent avec violence aux enseignements bénéfiques de l'Évangile, c'est-à-dire quand on prêche l'Évangile, les gens se fâchent, Viret compare ces hypocrites, ce qu'il appelle ces hypocrites superstitieux, infidèles et idolâtres, à des animaux souffrant de plaies diverses. Il dit ceci: « Quand les chevaux et mulets ont quelque ulcère et plaie, ils ne se laissent pas volontiers soigner, mais au contraire regimbent et mordent ceux qui sont auprès d'eux et qui les veulent guérir, à cause que ce sont bêtes qui ne connaissent pas le bien qu'on leur veut faire et qu'on leur fait. Il en est de même des hypocrites et des superstitieux et idolâtres, et de tous les infidèles, car ce sont bêtes farouches, qui n'ont pas tel usage de raison que ceux qui sont bien instruits en la parole de Dieu. Raison pour laquelle, si nous supportons bien les bêtes et ne négligeons pas de les soigner et de procurer leur bien, cependant qu'elles ne savent reconnaître et qu'elles n'en veulent pas, mais rendent le mal pour le bien, n'avons-nous pas beaucoup plus juste raison de faire le semblable, c'est-à-dire de soigner les hommes? Car tant farouches et bestiaux qu'ils puissent être, cependant sont-ils hommes créés à l'image de Dieu, comme nous? Par quoi, quels qu'ils puissent être, nous leur sommes toujours plus tenus par le commandement de Dieu qu'aux bêtes brutes, et devons beaucoup plus faire pour eux. Donc, si les fidèles désirent gagner les infidèles, il faut qu'ils se tiennent pour assurer qu'ils ne les gagneront pas en se moquant d'eux, et en les piquant et outrageant, et en leur voulant arracher par force leur religion des mains et leurs idoles et dieux étrangers. Ils ne gagneront autre chose par tel moyen, sinon qu'ils les feront dépiter et endurcir davantage et les rendront toujours plus farouches et plus sauvages. pour Pierre Viret, refuser la révélation divine, rejeter Dieu, conduit au durcissement et à la désintégration des facultés rationnelles, ce que le développement de notre civilisation occidentale démontre parfaitement bien. Donc pour lui, le fait d'être bien enseigné dans la parole de Dieu et de la recevoir de tout cœur ne représente rien de moins que la garantie du bon usage de ce don précieux de Dieu que sont nos facultés rationnelles. Ce que nous appelons l'apologétique dans notre jargon moderne était pour Viret et pour tous les réformateurs fondamental à la prédication efficace de l'Évangile. Ce n'était rien d'autre que mettre à l'œuvre une raison restaurée dans ses fonctions créationnelles normales. Car un tel usage sanctifié de nos facultés rationnelles n'implique rien de moins que la volonté de travailler à rendre toutes les pensées dévoyées des hommes captives à l'obéissance à Christ, afin de les amener à se soumettre à sa parole souveraine et absolue. En bref, de les rétablir dans leur fonctionnement originel normal. De quelle façon Viret procède-t-il ? Prenons un exemple tiré de sa merveilleuse métamorphose chrétienne. Afin d'éveiller l'intérêt du commun des mortels, il commencera par des proverbes et des dictons populaires, en montrant à la fois leur vérité et leurs limites. Il s'intéressera aussi au sens profond des aspects les plus élémentaires de la vie de ses concitoyens. Lorsqu'il aura affaire à des humanistes, il citera des auteurs antiques qu'il connaissait bien et dont les observations pratiques et les réflexions s'accordent, du moins en partie, avec les enseignements de l'Écriture. Cela, de par cette réalité créée et providentielle commune à tous les hommes. Il peut alors montrer à ses lecteurs que la parole de Dieu approfondit et complète leur compréhension sur ces questions débattues par les sages de l'Antiquité. Dans une longue réflexion sur la misère humaine, par exemple, Viret commence par toute une série d'observations très précises de nature anatomique et physiologique relatives à la misérable condition dans laquelle naissent les humains par rapport aux autres espèces animales. Le petit cheval peut marcher tout de suite, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas le cas des bébés. Et se mettant ainsi à la portée des scientifiques de son temps. Puis il cite les remarques de philosophes, d'historiens, de poètes de l'Antiquité à ce sujet, Platon, Pline l'Ancien et Ovide, attirant ainsi l'attention des lettrés de la Renaissance. Et ce n'est qu'après cette soigneuse préparation que Viret poursuit et expose le sens véritable de la misère humaine en présentant la pensée de celui qu'il appelle le plus grand de tous les philosophes, Job. C'est tout à fait étonnant de voir Viret parler ici non du caractère inspiré du livre de Job, mais de Job comme du prince des philosophes. En fait, Viret a une telle confiance en la vérité de l'Écriture, appliquée à tout aspect de la réalité, et il est si pleinement rempli de la sagesse de Dieu qu'il n'hésite pas à se servir de n'importe quel aspect de l'activité humaine, intellectuelle ou culturelle, pour aller à la rencontre de façon concrète et pratique des intérêts de ses contemporains. Mais son point de départ est toujours parfaitement biblique et créationnel. Il ne se place jamais sur le terrain imaginaire neutre d'une possible entente intellectuelle partagée et donc en dialogue avec les adversaires de la foi chrétienne. Il travaille ainsi à ramener toutes les pensées humaines égarées et déformées, c'est, il dit difformées, à l'obéissance au Christ. Voyez comment Viret parle de la révélation générale de Dieu dans sa création. Ce dialogue se passe à l'intérieur d'un jardin clos. Vous savez qu'il y avait dans le temps des jardins clos, avec des murs, et il y avait merveilleuses plantes médicinales et tout le reste dans ce jardin clos. Ça se passe dans un jardin clos. Et il y a deux personnes qui parlent ensemble, il y a Jérôme et Théophraste. Jérôme, c'est l'érudit philosophe, Théophraste, c'est le théologien. Jérôme. Il est question ici de la nécessité des images pour connaître Dieu. C'est une position catholique romaine, les images nous permettent de connaître l'histoire sainte et connaître Dieu. Jérôme, en cela pouvons-nous évidemment connaître l'ingratitude et la méconnaissance de l'homme et l'affection que ceux ont de Dieu qui ne se peuvent souvenir de lui s'ils n'ont des images pour leur rappeler. Car si tel personnage aimait autant Dieu qu'un ivrogne aime son vin, ou qu'ils eussent si bien mis leur cœur en lui qu'un paillard débauché le met en sa paillarde, ou la paillarde dans son paillard, ils ne chercheraient point des images pour les leur représenter, car la douceur que le cœur chrétien trouve en lui, en Dieu et la nécessité que l'homme en a à toute heure et minute lui doivent assez donner d'occasion de l'avoir perpétuellement en mémoire. Mais puisqu'il est question des images, lesquelles pourrais-tu choisir plus belles et mieux représentées au vif que celles que Dieu lui-même a peintes et portraites, c'est-à-dire dont il a fait le portrait de sa propre main? Car tout ce monde-ci, c'est-à-dire la création, qu'est-ce autre chose qu'un temple de Dieu dans lequel il se représente et manifeste à nous? Toutes ces créatures, que sont-elles autre chose que vive image de Dieu? Qu'est-ce tout le pourpris, l'enceinte, l'habitation de ce monde visible qu'une boutique en laquelle Dieu, en ce souverain ouvrier, a déployé ses œuvres pour nous donner à connaître par son ouvrage quel ouvrier il est et en quelle admiration et révérence nous le devons avoir? Et pour avoir l'expérience de ceci, ne sortons pas hors de ce petit jardin pour en aller chercher ailleurs le témoignage. Mais considérons seulement combien de sortes d'images de sa puissance, de sa sagesse et bonté Dieu nous a mis ici devant les yeux. Car autant que nous avons vu plantes, d'herbes, de feuilles et de fleurs, voire plus vives et plus vraies que toutes les images que les prêtres ont par leur temple, car en celle des prêtres, il n'y a ni vie, ni odeur, ni profit, ni utilité aucune, ni chose quelle qu'elle soit qui puisse rien représenter de Dieu, ni de ses dons et de ses grâces. Vous imaginez combien une telle procédure apologétique serait utile de nos jours, à la fois par son attachement à toute parole sortie de la bouche de Dieu, du Dieu vivant, par le prodigieux intérêt intellectuel qu'elle montre pour toute la réalité créée et providentielle de Dieu, et enfin et surtout par l'ardent amour chrétien qui y est manifesté à l'égard de toute catégorie d'hommes. Comme le faisait l'apôtre Paul, viré avant de se tourner vers la connaissance de Dieu et de l'homme, comme le fait la tradition augustinienne dont nous découvrons une illustration magnifique dans les premières pages de l'institution chrétienne de Calvin, il cherche, avant de faire ça, il cherche à se faire tout à tous, et s'intéresse ainsi à tous les aspects de la création, ainsi qu'à la vie de ses contemporains, afin de les attirer par une contemplation de la nature et de la culture à une connaissance plus haute, et ainsi d'en gagner au moins quelques-uns à l'évangile de Jésus-Christ. L'appropriation des divers aspects de cette méthode apologétique serait un correctif bienvenu, à la fois au pragmatisme simpliste d'une défense purement rationnelle de la foi chrétienne, si courante dans le monde évangélique, ainsi qu'à un esprit d'abstraction théologique et philosophique que l'on retrouve chez bien des apologètes présuppositionnalistes, même les meilleurs dans le monde réformé. Pour finir, quelques remarques sur un penseur biblique et créationnel. Ce sera ma conclusion. Premièrement, Viret considérait constamment tous les aspects de la réalité du point de vue de Dieu, telle qu'elle était révélée dans sa parole écrite. Deuxièmement, cette attitude à la fois théonomique, si on veut dire, et présuppositionnelle, lui venait de sa perspective entièrement biblique. Point de vue qui témoignait de son esprit éminemment catholique, c'est-à-dire il prenait en considération tous les aspects de la parole de Dieu tout entière. Troisièmement, en ceci la pensée théologique de Viret différait profondément de celle du dualisme à tendance gnostique qui marque une grande partie de la pensée de l'Église chrétienne aujourd'hui. D'un côté, nous avons, pour l'Église, une pensée théologique biblique, fidèle ou infidèle, peu importe. De l'autre, pour la réalité créée, la pensée autonome de la science. La conséquence de ce dualisme, fruit de la révolution scientifique et philosophique du XVIIe siècle, fut le rationalisme intellectuel et l'irrationalisme sentimental. Comme le disait le poète anglo-saxon T.S. Eliot avant la Première Guerre mondiale, ce n'est rien d'autre que la dissociation radicale entre l'intelligence et la sensibilité qui nous menace. On en a entendu parler pendant ces conférences. Quatrièmement, Viret avait compris que l'ordre diversifié et complexe que révèle la lecture des Saintes Écritures est du même ordre que celui que l'on peut découvrir à la fois dans l'univers créé par l'auteur de ces Écritures et dans la direction providentielle que manifeste l'Alliance divine agissant dans l'histoire de l'Église dans le monde. Cette préoccupation que l'on découvre constamment chez Viret, de vouloir tenir ensemble d'une manière soigneusement équilibrée la totalité de la révélation scripturaire ainsi que tous les aspects si divers de l'ordre créé, donne à son langage théologique un équilibre et une modération d'une saveur presque patristique. Cinquièmement, il n'oppose pas, mais bien plutôt distingua, la nature et la grâce. La révélation générale est spéciale. Car dans la pensée de Viret, tant la création que la rédemption étaient issues du même Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Une telle théologie l'amena à considérer tous les aspects de la réalité, même aujourd'hui déformés par le péché, comme autant de témoignages de la bonté de l'ordre créé. Pour Pierre Viret, cet ordre maintenant difformé, comme il le disait, pouvait non seulement être illuminé par la révélation surnaturelle divine, mais finalement restauré, reformé, comme il disait, pas réformé, mais reformé, c'est-à-dire formé à nouveau en Jésus-Christ par sa grâce souveraine, toute-puissante et bienveillante. La grâce du Dieu créateur, sustenteur et rédempteur, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi, pour parler à ses contemporains de Dieu et des décrets justes et pleins de miséricorde de notre Créateur et Rédempteur, Viret ne se limitait pas simplement à une exposition fidèle des Écritures. Pour lui, ses écrits divins constituaient une norme absolue. Mais il cherchait, dans sa prédication et dans ses écrits, à utiliser tous les aspects de la réalité, tant créée que providentielle. Ceci, nous avons constaté aussi dans la pratique des conférenciers ici. Il considérait en conséquence chaque aspect de l'activité culturelle des hommes comme constituant un tremplin à partir duquel la prédication de l'Évangile pouvait toucher le cœur et l'intelligence de ses auditeurs. Il faisait ainsi feu de tout bois. Il utilisait les proverbes populaires, la philosophie, la poésie, les annales historiques, l'analyse économique et la description des détails de l'anatomie humaine et animale. Rien ne se trouvait donc étranger à sa pensée chrétienne. Vous pouvez imaginer, une prédication explique pourquoi sa prédication était tellement attirante et tellement efficace avec de nombreuses conversions. Ainsi, pour reprendre un vocabulaire qui lui est étranger, Viret était dans sa pensée apologétique et dans sa prédication de l'Évangile à la fois pleinement présuppositionnaliste et entièrement évidentialiste. Il chercha ainsi à amener toutes les pensées à désordonner et déformer les hommes captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Une telle catholicité, la totalité de l'Écriture, éclairant la totalité de la réalité créée providentielle, était certainement la source du succès immense que connurent ses prédications. Il pouvait ainsi atteindre toutes les préoccupations de ses contemporains dans le langage familier de dialogue qu'il pouvait aisément saisir. Je prendrai juste finalement un exemple avant le dernier point. Pour ne prendre qu'un exemple, la pensée économique de Viret était à la fois théologique et morale, historique et sociologique, structurelle, économiquement structurelle et humaine. Il pouvait de cette façon percevoir et exprimer la mécanique des réalités économiques et en même temps rapporter ces réalités structurelles aux responsabilités immédiates et à long terme, ceci tant en bien qu'en mal des agents économiques humains. Ces agents humains du processus économique étaient présentés comme agissant en tant qu'instruments moralement responsables, capables de produire un bon ou mauvais fruit ou travailler à la corruption ou au développement productif de l'ordre social. Pour terminer, il faut reconnaître que cette réflexion pleinement catholique, tota scriptura, inspirée théologiquement de part en part, et appliquée par Pierre Viret à tous les domaines de la pensée humaine et de l'action humaine, provient non seulement de ses préoccupations bibliques, mais aussi du fait que sa pensée était ouverte à tous les aspects de l'ordre créé et providentiel. En ceci, sa pensée se trouvait en opposition complète au dualisme rationaliste binaire qui s'est graduellement emparé de l'intelligence occidentale depuis le XVIIe siècle. Et je finirai par cette remarque. Il est, de mon humble avis, grand temps que l'Église de Dieu, et par son enseignement nos nations elles-mêmes, en reviennent à entendre ce que Pierre Viret peut nous dire, encore aujourd'hui, sur les desseins immuables, bienveillants et miséricordieux et justes du Dieu trois fois saint concernant la condition présente, si navrante des hommes et du monde, qu'il continue à détruire. Merci.